penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Cher François Larbouste, je rappelle que vous êtes avec nous ce mois-ci pour cette série d'émissions sur l'intelligence de la foi et précisément sur ce que nous célébrons à Noël, comment Dieu a pris chair de notre chair, comment il s'est incarné en Jésus-Christ. Je rappelle que vous êtes curé doyen du secteur de Grenade-sur-Garonne, mais que vous êtes ici surtout parce que vous êtes enseignant à l'IERP et que vous faites un cours de Christologie. Alors, la fois précédente, vous nous avez dit que les disciples avaient finalement pas tout compris tout de suite, bien entendu. On a même rappelé que Marie n'avait pas eu, au niveau de la connaissance, tout compris tout de suite. Il y a donc une forme d'économie, de dévoilement progressif du salut, de la personnalité. De ce fait, nous sommes amenés à faire un lien entre Noël et Pâques. Parce que, est-ce qu'il ne faut pas attendre précisément la Pâque de Jésus pour que l'ensemble du mystère du Christ soit dévoilé?
Si, tout à fait. Mais il y a d'abord un chemin qui va de Pâques à Noël, en tout cas pour les apôtres, du lac de Tibériade. De Noël à Pâques, pour les apôtres du lac de Tibériade jusqu'à Pâques, où je vous disais, les apôtres découvrent les miracles du Christ, découvrent qu'il accomplit l'Écriture, que parfois il agit comme Dieu agit, notamment la multiplication des pains, etc. Il y a des moments aussi où ils sont troublés par les prétentions de Jésus. D'abord, la prétention de pardonner les péchés, qui est divine. Et d'ailleurs, les auditeurs ne s'y trompent pas, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés, seul Dieu le peut. Et puis, une prétention aussi, qui est aussi divine, celle de corriger la loi. Et souvenez-vous, quand Jésus parle du mariage, Moïse nous a permis de renvoyer nos femmes, etc. Et Jésus dit, mais ça, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'est noté pas ainsi. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et Jésus vient se faire le juste interprète de la loi, le législateur. Ça, c'est divin. Et puis, également, on peut dire que Jésus, surtout, étonne les disciples par la profondeur de sa relation avec le Père. Jésus dit jamais « je suis Dieu ». Il dit parfois « je suis », c'était le nom de Dieu, etc. Il fait des miracles, etc. Mais surtout, il ne le dit pas. Il dit pas « je suis Dieu ». Pourquoi ? D'abord parce que il aurait peut-être pas pu dire « je suis Dieu » sans qu'on le prenne pour un fou. Si je vous dis ça, vous aurez des doutes sur l'état de ma conscience. Voilà. Mais également parce que dans le contexte d'un strict monothéisme d'Israël, il pouvait pas le dire. Dieu, c'est le Père. Et donc, quand il parle de Dieu, il parle du Père, en fait. Mais surtout, ce qui est marquant, c'est que Jésus vit une vie filiale. Il est infiniment proche du Père. Il dit, le sens de ma vie, de mon existence, c'est de faire la volonté du Père. Il dit qu'il est sorti du Père. Il est dévoré d'un zèle profond pour accomplir la volonté de ce Père qu'il aime, et qu'il appelle, et ça c'est un peu à part, qu'il appelle Abba. C'était pas si courant d'appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Papa, cette infinie proximité. On le voit, il prie, et puis ce sera encore plus pressant au moment de la Passion, où on verra que non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu, le Père, veut. Et ça, cette proximité de Jésus au Père a sans nul doute troublé les disciples. Et voilà, il y a eu des moments où ils ont été éclairés par l'Esprit Saint, quand Pierre dit tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il y a des éclairs qui se font, il y a des théophanies, pensons à Transfiguration. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils en sont toujours quand même à se demander qui est cet homme. En tout cas, ils mettent en lui leur confiance, mais que tout s'écroule à la croix.
Alors, avant que nous en arrivions à la croix, je vais peut-être redire et insister là-dessus. Aucun prophète, ni que l'on sache les rabbins de l'époque, personne n'a parlé de Dieu en tant que Père avec, de cette façon-là, avec ce langage-là, et en exprimant cette proximité-là. Ça, c'est quand même quelque chose, effectivement, de radicalement nouveau. Parce que on pouvait, enfin, dans l'ancien Israël, on pouvait appeler Dieu Père. Mais c'était le Dieu Père en tant qu'il protégeait le peuple, etc. Mais il n'y avait pas cette... tout le monde voyait bien que c'était une image. Or, lorsque Jésus en parle, la façon dont il en parle, la façon dont il le nomme, on voit bien que ce n'est pas simplement une image, puis comme ça évoquée en passant, hein, une forme d'analogie. Mais il en parle d'une façon totalement, très existentielle et entièrement impliquée dans cet acte. On sent que, vous l'avez dit, hein, Abba Père, Papa. Hein. Voilà. Alors donc, justement, on en arrive à la croix où Jésus va avoir cette terrible parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Est-ce que ce rapport au Père n'est pas en train de se distendre à ce moment-là ?
Alors, ce cri de déréliction du Christ est l'expression d'une immense souffrance, c'est évident, où Jésus peut-être ne se sent plus soutenu à ce moment-là. Il va jusqu'au bout de la souffrance et de l'abandon. Et également, il accomplit l'Écriture, parce que, souvenez-vous, du serviteur souffrant, il apparaissait délaissé de tous. Jésus va jusque-là, il va, on peut dire, jusqu'au bout de l'homme qui s'est le plus éloigné de Dieu, jusqu'au bout de la déréliction et de la souffrance.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, mais que de ce point de vue-là, il peut nous rejoindre aujourd'hui lorsqu'on se sent totalement abandonné de Dieu. Je pense à des personnes, assez récemment encore, qui lors d'un décès, se sentent abandonnés de Dieu, même en révolte contre Dieu. Et moi, il m'arrive de leur dire, mais écoutez, les psaumes sont là pour vous permettre de crier vers Dieu en disant, mais pourquoi tu m'as abandonné ?
Alors, Bernanos, dans le dialogue des Carmélites, a une belle formule, il fait dire à une des religieuses, les martyrs, dans leur agonie, étaient soutenus par le Christ. Le Christ, lui, est entré entièrement seul dans son agonie. Et de fait, ça, je crois que y a quelque chose de très vrai. Mais pour revenir à ce psaume, parce que ce que dit Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est un psaume. Et ce psaume est aussi une marque de confiance du Christ, à la fois la marque de son immense souffrance, et où vraiment s'accomplit l'Écriture, je suis un ver, pas un homme, tout ce qui me voit me bafoue, il ricane et hoche la tête, c'est tout à fait une description de la croix en fait.
C'est impressionnant. Ça c'est la suite du psaume.
C'est la suite du psaume, mais sauf que ceux qui étaient au pied de la croix, ils connaissaient très bien l'Écriture.
Oui, voilà. Et puis je pense que Jésus lui-même, en commençant par les premiers mots du psaume, veut nous donner à entendre toute la suite.
Toute la suite, et la suite c'est « Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur, etc. » Donc c'est aussi l'expression à la fois d'une très grande souffrance, d'une plainte, mon Dieu, pourquoi m'a abandonné, mais quand même d'une confiance dans le Père qui peut le sauver de la mort et qui lui donnera la résurrection. Donc à ce moment-là, il faut bien reconnaître que la foi des apôtres, celui en qui ils avaient mis leur espérance, on voit bien avec les disciples d'Emmaüs, n'est plus, et c'est comme un effondrement. Il faudra la résurrection pour qu'ils se disent, mais cet homme qui avait annoncé sa mort, qui a vécu comme injuste, eh bien, son sacrifice, il a été accepté par le Père. Et ils vont comprendre que le Père l'a glorifié, puisqu'il reçoit une vie toute nouvelle, cette résurrection, qui n'est pas simplement comme la résurrection de Lazare, pour ressusciter de la vie terrestre à une autre vie terrestre. C'est une vie nouvelle qu'il reçoit et il est monté au ciel. Et là, ils comprennent. S'il est monté au ciel, s'il a été glorifié par le Père, c'est qu'il venait du ciel. Et ils comprennent le lien entre, finalement, Noël et Pâques.
Oui, parce que j'allais vous dire, nous sommes bien éloignés de Noël, et pourtant pas tant que ça.
Pas tant que ça, parce que dans le fond, à Noël, où la vie se manifeste, c'est pour nous donner une vie nouvelle, une vie de ressuscité déjà, que le Christ est là.
Et déjà à Noël, il y a à la fois les marques de cette humilité de Dieu dont nous parlions tout à l'heure. Mais si je me réfère à l'évangile de Matthieu, il y a aussi planant déjà la menace, le danger, la mort. Nous fêtons, je ne sais pas si c'est, dans les jours qui suivent Noël, les saints innocents.
Oui, c'est vrai. Et alors, il est venu chez les siens n'en ont pas reçu, on le voit bien, Hérode veut le tuer, Les pères de l'Église ont vu aussi un signe du péché des hommes dans le fait qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie, même si en réalité il y avait peut-être aussi des raisons pratiques qui fait que dans la salle commune on n'accueille pas une femme qui va accoucher. Mais en tout cas, c'est véritablement déjà on voit l'hostilité qui se profile et qui fait déjà penser à la croix.
Voilà, et donc il y a déjà cet aspect ténébreux de Noël, et pourtant cette lumière qui luit dans les ténèbres, et j'aime beaucoup personnellement cette première lecture que nous avons dans la messe de la nuit, reprise d'Isaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière », et c'est vrai que Noël c'est pas uniquement la lumière, mais c'est aussi les ténèbres qui sont là, et dans notre monde aujourd'hui il y a tant de ténèbres. Mais la lumière, elle vient dans les ténèbres et non pas ailleurs.
La lumière vient dans les ténèbres d'une situation dramatique, une femme qui, alors qu'elle est enceinte, doit quitter sa maison avec son jeune mari, et il n'y a pas de place pour eux, et puis ils doivent fuir. Une situation dramatique, mais née la lumière, de la nouvelle de l'incarnation, hein. Gloire à Dieu, paix aux hommes de bonne volonté, comme de la croix, qui est un événement terrible, ténébreux, qui révèle tout le péché de l'homme, hein, tout ce que l'homme peut faire à l'homme, et le péché de l'homme contre Dieu, et bien en même temps, il y a cette lumière parce que quand on se rapproche de l'intérieur, la croix est lumineuse et elle est source de notre espérance.
Pour terminer cette troisième émission, me permettrez d'évoquer en ce moment du mois de décembre, nous approchons de la fête de Noël, toutes ces femmes et ces parents qui attendent un enfant et qui sont jetés sur les routes à cause des conflits. Alors on pense aux Ukrainiennes, mais aussi à tant d'autres dans plein de pays et qui se retrouvent un peu comme Marie et Joseph, hors de chez eux et parfois obligés de vivre ce moment de la naissance dans de terribles conditions. Merci Père François de Larboust. Je rappelle que vous enseignez la christologie à l'IERP et que vous donnerez d'ailleurs un cours qui débutera fin janvier. Donc ceux qui le souhaitent peuvent venir vous écouter et assister à votre cours.